Dans cet épisode hors série, j'avais envie de parler d'un sujet qui, je vous le dis tout de suite, a été beaucoup plus épineux et compliqué à traiter que ce que je pensais en commençant le projet, ce qui l'a rendu encore plus passionnant. À l'occasion de la Journée des droits de la femme, je suis ravie de vous proposer ce format inédit où nous avons échangé avec une multitude d'invités sur le sujet. J'ai passé littéralement des heures à discuter avec plusieurs personnes du monde de l'agroalimentaire et de la grande distribution sur le sujet, mais aussi des heures à traiter le sujet au montage. Cet épisode n'a pas vocation à être provocateur ni prendre position sur le sujet. Vous avez un tas d'articles sur internet pour ça qu'ils font très bien, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Bien au contraire, il vient sourcer des expériences de plusieurs acteurs, que ce soit des femmes et des hommes d'ailleurs, et vise à vous faire vos propres avis sur la question. Alors, à travers cet épisode, on a parlé de plein de sujets. La journée des droits de la femme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'on doit obligatoirement en avoir une? Qui sont les femmes et les hommes qui vous inspirent et pourquoi? Est-ce que les femmes rencontrent encore des difficultés, des inégalités aujourd'hui? Le leadership au féminin, est-ce que ça existe? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Enfin, vous le verrez, cet épisode, il va bien au-delà de seulement la journée des droits de la femme. C'est un épisode extrêmement inspirant qui, selon moi, donne beaucoup d'enseignements sur le savoir-vivre avec les autres, mais aussi avec soi-même. Alors, si vous vous demandez pourquoi cette journée, si vous souhaitez aussi entendre des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, cet épisode répondra peut-être à certaines de vos interrogations. Je m'appelle Salomé Sherrington et je vous souhaite une excellente écoute sur Sans Filtre Ajouté. Mais finalement, où et comment prend naissance la Journée des droits de la femme? Alors la Journée internationale des droits de la femme, elle est célébrée depuis 1911. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour une égalité avec les hommes. Et c'est en août 1910, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, à l'initiative de Clara Zetkin, qui était une militante allemande, qu'a été prise la décision de la célébrer. Le but, c'était de mobiliser les femmes, les politiques et les syndicats autour d'une même cause. Et j'ai posé la question à mes invités en leur demandant la journée des droits des femmes, qu'est-ce que ça vous évoque? Et sur cette question, je vais laisser la parole à Camille Winter, compte-clé chez Bell, Niki Papadopoulou, directrice des études de l'INSEC, Olivier Dover, journaliste, et Nadia Melverzo, général manager sur l'accélération de nouveaux business chez MOM, Bell.
Alors moi, ce que ça m'évoque, cette journée des droits de la femme, c'est un combat parmi de nombreux combats. En fait, il y a le sujet des femmes, mais il y a plein de combats aujourd'hui dans notre société et il n'y a pas que celui-là. Tu as le combat de la cause noire, de la cause LGBTQI+, même des handicapés, tu vois. Il y a plein de personnes qui sont des personnes minoritaires, minorisées. Et donc, pour moi, c'est un combat parmi de nombreux, malheureusement, mais qui a toute sa valeur, en tout cas.
Ça ne veut pas dire que tous les autres jours, ce n'est pas important de parler des femmes, mais on a choisi un jour, historiquement, pour faire hommage à tous ceux qui font les femmes et pour parler de leurs droits. On pense que ça fait vraiment très à l'ancienne, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on parle de ce type de sujet. Et on s'est rendu compte avec l'actualité qu'on voit souvent que pas toutes les femmes dans le monde et parfois même dans les pays européens ont des droits, leurs droits ne sont pas toujours respectés. C'est vrai que dans des différents pays, ces jours prennent des dimensions différentes. Dans certains pays, c'est hyper important parce que on parle pas beaucoup, beaucoup des droits des femmes. Et dans d'autres pays, c'est vu, je pense plus les pays anglo-saxons ou les pays scandinaves. C'est pas vu, c'est vu comme un jour comme les autres. C'est plutôt l'ONU qui en parle, ces types d'organisations internationales. Je pense que ça dépend et je pense que le lien est directement, c'est vraiment lié au statut de la femme dans ces pays.
Alors, ça m'évoque des sentiments partagés. Parce que d'un côté, je trouve important qu'il y ait des jours qui soient dédiés à certaines causes pour sensibiliser. Et en même temps, je me désole qu'il y en ait encore une nécessaire pour cette notion des droits de la femme. Voilà, évidemment, il y a encore beaucoup à faire pour les femmes et en particulier dans le monde. Et c'est vrai aussi pour des pays, on va dire, plus modernes comme les nôtres, où on sait qu'il y a encore des inégalités en termes de rémunération ou même d'accession à des postes de direction et de responsabilité. responsabilité pour les femmes.
La journée des droits de la femme, ça m'évoque un point de rendez-vous où, même si on multiplie les symboles et les totems avec tous les mauvais travers qu'il y a là-dedans, ça marque malgré tout une forme d'avancée lente mais sûre, simplement, du droit des femmes, notamment dans le travail. Donc, il n'y a pas assez d'une journée pour que les femmes puissent prendre la place à laquelle elles peuvent prétendre. Pour autant, s'il n'y a pas cette journée-là, on en parlerait moins. Donc, c'est toujours la double lecture que l'on a avec ces symbolisations, avec ces commémorations, façon de parler. C'est qu'on ne devrait pas en avoir besoin, mais malgré tout, le simple fait que ça existe, ça sert la cause, donc c'est bien.
La journée des droits de la femme marque donc une évolution, sert la cause, dit Olivier Dauvert, montre un combat fort, très important, et qui figure parmi d'autres, comme l'a évoqué Camille Winter. Elle marque aussi des différences des droits des femmes dans le monde, comme l'a souligné Nikki, et elle peut parfois partager, car elle montre qu'elle est encore nécessaire et qu'il y a encore des combats à mener, comme l'a dit Nadia. En France, les femmes occupent moins de postes à responsabilité que les hommes, tous secteurs confondus, et la grande distribution n'y échappe pas, c'est un fait. J'ai voulu poser la question à mes invités de savoir s'ils avaient vu des évolutions à ce sujet de par leurs expériences dans le secteur de la grande distribution. Et je vais laisser la parole successivement à Philippe Guetzmann, conférencier expert de la grande distribution et de la grande conso, Manon Guillot, chef de produit senior chez Bonduelle, et Olivier Dauvert, journaliste.
Oui, c'est vrai que la grande distribution était, je dirais, une profession, enfin un métier, qui était un peu caricatural de la situation générale des femmes dans l'économie. Moi, j'ai démarré dans la grande distribution il y a 28 ans, à une époque où ce métier-là était très fortement féminisé, mais l'était exclusivement ou quasi exclusivement dans des fonctions qu'on pouvait considérer comme subalternes. C'est-à-dire que, évidemment, l'effectif très important des hôtesses de caisse était quasi exclusivement féminin. À cette époque-là, on commençait à recruter des hôtes de caisse, mais ils étaient très rares. La même chose sur des métiers de vente, notamment dans les produits frais. Et plus on montait dans la hiérarchie, dans l'encadrement, plus les professions se masculinisaient. Vous aviez pas tout à fait la parité, mais pas très loin sur les métiers de chef de rayon. C'était déjà moins le cas sur les métiers de chef de secteur, chef de département. Quant au directeur d'hypermarché, à l'époque, ça représentait 3-4% de l'effectif des entreprises. De ce point de vue-là, c'est un métier qui est considérablement changé depuis 30 ans. Et d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de mentionner, bien sûr, les postes de direction générale qui étaient quasi exclusivement masculins à l'époque et qui aujourd'hui se sont aussi largement féminisés, même s'il reste du chemin à faire. En fait, en 30 ans, on a vraiment profondément changé. Parce qu'il y a eu une prise de conscience, comme dans le reste de la société, probablement aussi parce que il faut bien se rendre compte que pour bien exécuter ce métier de grande distribution, qui est de plus en plus complexe, il faut finalement que les décideurs soient à l'image des clients qui sont présents en magasin. Et c'est ce qui était très frappant dans le système d'il y a 25 ans, finalement, c'est que les décideurs de ces entreprises de grande distribution n'étaient pas ceux qui faisaient leurs courses. Et ça renvoie à autre chose dans la société elle-même, c'est-à-dire que les tâches ménagères, et notamment les courses, étaient une tâche tout particulièrement féminine, très peu masculinisée. Hein, en regardant un magasin dans l'allée centrale, qui poussait les caddies, c'était des femmes. Et on a tous en mémoire également les discours de grandes chaînes de télé à l'époque qui ciblaient la ménagère de moins de 50 ans. Donc tout ça sont des propos très caricaturaux, mais qui étaient à l'époque. Et donc on avait voilà une forme de décalage entre les dirigeants du métier et ceux qui font leurs courses, ceux qui sont au service desquels ces dirigeants sont. Et je crois que l'évolution, elle est très salutaire dans ce sens-là, c'est qu'elle a petit à petit amené une meilleure mixité dans les postes de dirigeants et probablement une meilleure capacité à comprendre les attentes des consommateurs et des consommatrices.
j'ai, admettons, une bonne dizaine d'années d'expérience. Donc, je pense que je suis arrivée dans un monde où ça avait déjà évolué par rapport à avant. Je pense que ça évolue de plus en plus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience en Angleterre, où peut-être que c'est encore plus loin que la France, en tout cas de mon vécu. C'est vrai que la culture britannique fait que on est tellement dans le politiquement correct que du coup tout ce qui est remarques sexistes etc. ne passe beaucoup moins je pense qu'en France, et en tout cas est beaucoup plus corrigé si jamais ça arrive, et donc je pense que ça permet aux choses d'évoluer plus rapidement, plus naturellement. Bon, après c'est mon expérience, et par rapport à cette évolution là je pense qu'effectivement on a de plus en plus d'exemples de femmes qui réussissent sans pour autant avoir à sacrifier leur vie personnelle ou leur vie familiale, sans pour autant tomber finalement par défaut dans des modèles masculins. Je pense que ça a évolué. Après, j'ai pas vraiment énormément d'expérience pour savoir exactement comment. Si on regarde les chiffres, je n'en connais pas comme ça, mais je sais qu'il y a de plus en plus de femmes à des hauts postes, dans des 440, il y en a peut-être 2-3 aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça évolue. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et je pense qu'on est tous et toutes responsables à notre échelle de pouvoir faire évoluer les choses.
J'ai vu effectivement un monde de la distribution il y a 30 ans qui était non seulement masculin, mais aussi macho. Je vois aujourd'hui un monde de la distribution 30 ans plus tard qui est moins masculin, factuellement il est moins masculin, il est aussi moins macho parce que la société est devenue moins macho, mais je vois encore un monde où malheureusement la place des femmes est encore insuffisante. Pour autant, je vois des avancées, et toujours à mettre dans le registre du symbole parce que c'est celles-là qui font avancer une cause. Et je vois notamment l'avancée d'un des retailers français, en l'occurrence le premier d'entre eux, Carrefour, et j'y vois un effet générationnel. J'ai été frappé avec l'arrivée d'Alexandre Bompard, il y a maintenant bientôt 5 ans. J'ai été frappé par, à certains moments, le dogmatisme qu'il affichait, qu'il revendiquait, donc qu'il assumait, de vouloir des femmes, de vouloir un changement de génération et un changement de genre. Lui-même incarnait, quand il est arrivé, un changement de génération. Le précédent patron, Georges Plassat, avait en gros 20 ans de plus que lui. Donc il a incarné ce changement de génération, et il y a rajouté, c'est vraiment frappant, un changement dans le genre, où, alors avec certains excès parfois d'ailleurs, où il fallait une femme parce que c'était une femme à certains postes. Bon, je suis pas persuadé que pour le coup toutes les féministes les plus chevronnées acceptent cette idée-là de voir une femme parce que c'est une femme. Mais bon, qu'importe. Mais qu'importe. Si ça fait avancer la cause, et si ça permet de donner une exposition et des incarnations à certaines femmes, bah, moi je trouve que ça va dans la bonne direction. Quand je regarde l'état-major de Carrefour, quand je vois Caroline Dacier, quand je vois Elodie Pertuiseau, quand je vois Morgan Veil. Il y a une dizaine d'années chez Carrefour, ce niveau de poste-là était inatteignable, ou avec une probabilité tellement faible que beaucoup de femmes ne le regardaient pas. Désormais, elles le regardent. Et si je dois mettre en avant quelqu'un pour le mouvement qu'il a impulsé, c'est clairement Alexandre Bompard, le patron de Carrefour.
Un point que Philippe Guetzmann a souligné qui est très intéressant et très vrai, c'est que 30 ans en arrière, les postes à haute responsabilité, et donc les postes de dirigeants, étaient majoritairement lidés par des hommes. Et à l'inverse, les clients de la grande distribution étaient plutôt des femmes. Manon Guillot souligne l'aspect culturel pouvant influencer sur la façon de voir la cause et même la manière de réprimander certains abus. Et enfin, Olivier Devert appuie sur l'avancée de Carrefour sur la cause, et l'enseigne affiche d'ailleurs clairement sur ses engagements la diversité avec 41% des femmes à des postes de management. J'ai souhaité aussi demander aux femmes qui ont participé à cet épisode si elles avaient rencontré des difficultés. Je laisse la parole successivement à Clara Ménoret, chef de secteur pour le groupe Bell, Alexia Chassagne, présidente de Juste, Nadia Malverzo, General Manager sur l'accélération de nouveaux business chez Mom Bell, et Manon Guillot, chef de produit senior chez Bonduelle.
La grande distribution, enfin en tout cas moi de ce que je remarque, hein, c'est un milieu qui est
très très masculin. La plupart de tes clients sont des hommes. La plupart de tes concurrents sont des hommes. Donc t'évolues un petit peu, toi, femme jeune, toute seule, dans un milieu qui est hyper masculinisé. Et en fait, je me retrouve dans une situation où il y a beaucoup de gens qui, comme moi, sont pas voués forcément à faire du terrain toute leur vie. Arrive au final, quand je vois mes concurrents ou d'autres gens que je rencontre sur le terrain, souvent c'est des femmes qui ont la vingtaine et puis qui arrivent, qui font du terrain. Et il y a pas mal d'autres choses que tu remarques aussi. Déjà, c'est qu'on ne te fait pas confiance. Quand t'es une femme, on va avoir moins tendance à te faire confiance et à croire en ce que tu dis et ton expertise. Moi, j'ai la chance d'avoir un promoteur sur lequel je m'appuie énormément. Et souvent, je me souviens, au début, on confondait. On disait, c'est lui le chef de secteur. À chaque fois, j'étais obligée de repréciser, bah non, en fait, c'est moi qui suis censée prendre la décision finale. C'est mon secteur, c'est mes clients, c'est moi qui gère mon parc. Et ça a été aussi une des premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'on m'a pas fait confiance, ou en tout cas, on m'accordait pas la confiance très facilement. En fait, les clients vont véritablement avoir tendance à se tourner vers les hommes. Et quand t'arrives, que t'as vraiment aucune notion du terrain, en fait, on t'accorde aucune attention, parce que déjà, t'y connais rien. Et puis en plus, on pense que t'as pas suffisamment de professionnalisme pour pouvoir aller apprendre, aller chercher, puis devenir vraiment et imposer cette posture professionnelle que tu peux avoir avec ton client. Il y a pas mal de choses quand t'arrives, comme j'ai dit, t'es une femme jeune, souvent tu vas avoir tendance à te prendre des remarques des gens, ou en tout cas des hommes dans l'agroalimentaire qui sont souvent, sans faire de généralité, souvent des hommes un peu plus âgés, dont tu as l'âge d'être la fille, et qui vont te dire des choses, si tu continues à venir comme ça avec ce type de t-shirt, je te prends dans la réserve. En fait, t'as jamais été confronté à ça, toi qui arrives d'école, forcément, où t'as eu un peu plus d'éducation, tu n'as jamais été confronté à ce genre de choses, véritablement. Et tu dois réagir à chaud en te disant, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de me fâcher avec mon client pour ce genre de réflexion? Est-ce que je dis, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas? Ou est-ce que tu prends le parti de dire, tant pis, j'accepte? Donc en fait, je pense que t'as, dans les exemples que je viens de te dire, qui m'ont vraiment marqué, hein, au début, ça a été très très compliqué, t'as deux choses. Soit tu te dis, ok, je me fâche avec cette personne, je décide de ne plus retourner dans ce magasin, et j'arrête de faire du business. Et souvent, c'est des gros magasins, parce que c'est des monstres où t'as énormément de personnes, une circulation de personnes énorme qui abusent de leur position. Donc du coup, soit tu te dis, j'arrête, je ne fais plus de business avec ce magasin-là, au risque de perdre énormément d'argent. Soit tu te dis, tant pis, je vais dans son sens et je joue avec ce qu'il est en train de me raconter.
Moi, j'ai peut-être pas eu de combat à mener parce que j'ai un caractère très fort et parce que j'ai été élevée par un papa qui voulait faire de nous des femmes fortes. Et donc, j'ai jamais eu le sentiment d'être infériorisée par mon statut de femme. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est que généralement, les femmes se retrouvent dans une assemblée majoritairement masculine. Donc moi, je me suis très régulièrement retrouvée dans des réunions où il y avait 10 mecs et 2 nanas. C'est une réalité. Et plus tu montes, on va dire, dans la hiérarchie de la société, et moins il y a de femmes. Et en fait, là où moi j'en ai utilisé, c'est que quand tu arrives dans des réunions où il y a beaucoup d'hommes, je suis désolée de leur dire, mais c'est souvent un concours de coq. Et c'est souvent ce que les Anglais appellent le pin contest, donc le concours de quéquette, quoi. Voilà, concrètement. Et c'est à celui qui va sortir le plus... son intelligence, étaler sa petite cuillère de confiture. Et donc, en fait, moi, j'en ai joué en ajoutant une touche de sensibilité, de féminité qui était presque surjouée. Parce qu'en réalité, au quotidien, dans le travail, je ne suis pas forcément quelqu'un d'extrêmement féminin. Mais là, dans ces réunions-là, j'ai utilisé une forme d'ultra-féminisation permet de diminuer le niveau de testostérone de la réunion, puisqu'ils sont tous en train de faire comme ça, là, ils font les coques, là, donc le poitrail en avant, là, et en fait, quand tu leur apportes une touche de féminité, mais bien dosée, avec un petit peu d'humour, mais pas trop mal placée, bah, finalement, ça fait redescendre cette espèce de niveau aussi sonore, hein, parce qu'en fait, quand il y a beaucoup d'hommes dans une salle, ils parlent tous de plus en plus fort. Et finalement, toi, si tu arrives à réduire ce niveau sonore-là, réduire le côté très mâle dominant, et ben ça peut jouer en ta faveur.
Alors, je vais avoir un avis surtout axé sur ma propre expérience. Et je dois dire que je ne me suis jamais sentie discriminée sur le fait d'être une femme. Je n'ai jamais senti dans mon environnement que les femmes avaient moins de chance que les hommes. Après, voilà, j'ai eu la chance de faire un très long parcours chez Danone où je pense que ce sujet a toujours été au cœur des préoccupations de ce groupe. Et j'ai par la suite enchaîné chez Mom, où de la même manière, j'ai jamais ressenti ça. Est-ce que j'ai eu de la chance et est-ce que j'ai été dans des organisations ou est-ce que je les ai choisies ? Toujours est-il que voilà, je me suis jamais sentie, j'ai jamais senti de frein à mon ambition. Évidemment, il fallait que j'aie les compétences pour évoluer. Comme tout le monde, j'ai eu des difficultés parfois, j'ai eu des déconvenues, mais globalement, je ne peux pas dire que à un moment quelconque, je me sois dit c'est parce que j'ai une femme que je n'y arrive pas. Et je crois d'ailleurs que c'est beaucoup le regard qu'on va poser sur soi qui va finalement faire la différence, hein, sur l'ambition qu'on va pouvoir se donner et comment on va s'en donner les moyens.
Alors moi, j'ai, je pense, eu beaucoup de chance parce que il n'y a pas eu un gros événement qui a été négatif. Après, au quotidien, il y a toujours des choses qui existent, qui nous impactent, je pense, toutes les femmes de manière différente. Je prends l'exemple ce que j'appelle le sexisme passif, c'est-à-dire que c'est pas forcément des blagues ouvertement sexistes ou des comportements inégaux, mais c'est des petites choses du quotidien qui finalement impactent de manière négative. Je donne un exemple tout bête, mais quand un homme d'un certain âge nous appelle « miss », ce qui arrive, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, Salomé. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose sur lequel on devrait revenir et peut-être mettre le doigt dessus en disant « Est-ce que vraiment c'est acceptable ?» C'est pas négatif forcément et je pense que très rarement c'est voulu comme négatif. Mais c'est quelque chose qui, je pense, dévalorise les femmes et c'est dommage. Donc moi, c'est plutôt des exemples comme ça. Et puis après, moi, je sais que je l'ai vécu et je pense que ça arrive à plus de femmes que d'hommes. C'est le fameux syndrome de l'imposteur, qu'on devrait peut-être appeler l'imposteuse, où on se sent, on a l'impression de ne pas être à sa place, on doute de ses capacités, est-ce que vraiment je méritais cette promotion, ce genre de choses. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus féminin que masculin.
Nier les difficultés que j'ai pu rencontrer en étant sur le terrain en tant que chef de secteur jeune et femme serait vraiment un manque d'honnêteté de ma part, mais il faut absolument pas en faire une généralité. Une chose que j'aimerais partager est vraiment le sentiment d'insécurité que j'ai souvent pu ressentir malgré moi en me rendant à ma voiture à des heures très matinales. Et également, comme pouvait l'évoquer Manon, j'ai déjà ressenti également ce syndrome de l'imposteur, ne souhaitant pas m'attribuer mes succès, les niant même parfois. Et cela a souvent été vu comme une vraie forme d'humilité auprès des personnes qui m'entourent. Pour avancer, pour prendre confiance et évoluer en tant que personne, je me suis entourée de modèles féminins et masculins qui m'inspirent très fortement. Et c'est aussi le cas de mes invités. Et je vais laisser la parole à Nadia Malverzo, Camille Winter, Philippe Guedman et Niki Papadopoulou sur ce sujet.
Alors oui, je dirais que j'ai eu la chance de croiser plein de managers hommes et femmes qui m'ont beaucoup inspirée dans mon évolution. J'ai eu la chance de croiser des personnes formidables aussi qui ont souhaité me faire confiance et me donner des responsabilités au moment où je les demandais. Ça va paraître un peu puéril, mais en fait, moi, la femme qui m'inspire le plus, c'est ma mère. Et je pense qu'en fait, cette volonté cette capacité à me dire que je me regarde pas comme une femme, mais comme en fait n'importe quelle personne, Elle me vient de ma mère. Ma mère, en fait, elle est d'origine tunisienne. Elle est issue d'une famille plutôt modeste. Elle avait 8 frères. Elle était la seule fille. Bien entendu, son éducation n'était pas une priorité. Mais elle s'est battue. Grâce à ses résultats, elle a réussi à obtenir une bourse d'études qui lui a permis, en fait, de faire ses études. Que ses études soient financées par l'État. Et ça lui a permis de devenir professeur de mathématiques, puis de passer l'agrégation. Et voilà. Et en fait, elle ne s'est jamais mis. Elle aurait pu, en fait, se dire que rien n'était possible et que, voilà, l'éducation était réservée plutôt à ses frères. Mais elle a refusé de se dire ça et elle s'est donné les moyens de son ambition. Et donc, voilà, ma mère m'inspire beaucoup sur le fait que quand on veut, on peut. Et que tout n'est affaire que de volonté et qu'il n'y a pas de fatalité.
Pas connu, alors je ne vais pas te citer mes amis qui sont mamans, etc., mais qui m'inspirent vraiment, mais aussi des personnes connues, et il y en a plein, vraiment, je pourrais en citer beaucoup. J'adore Léa Salamé, par exemple, qui a notamment écrit 2 livres sur femmes puissantes, et j'avais lu ça avec beaucoup de délectation. Je trouve ça très intéressant de voir un petit peu des modèles différents, parce qu'en fait, finalement, les modèles, il n'y en a pas qu'un, il y en a autant de personnes qu'il y a sur Terre. Après, il y a il y a eu pas mal de femmes politiques que j'avais suivies, parce que j'habitais en Allemagne à un moment, donc moi j'avais suivi Ursula von der Leyen, qui maintenant est présidente du Parlement. J'ai aussi les Dilma Rousseff au Brésil, qui je trouve, c'était vraiment un pas en avant presque inespéré, tu vois, de retrouver dans ces pays-là une femme au pouvoir. Et puis entre-temps, il y a eu un peu un recul, tu vois, ça fait partie des pays où je trouve qu'il y a une perte d'avancée et c'est un peu effrayant. Une Christine Lagarde, tu vois, ancienne patronne du FMI. Enfin, franchement, tu vois, quand tu écoutes ce genre d'interview où tu te dis, en fait, elle est puissante par juste son expertise, tu vois. Enfin, c'est quand même ça le fond de l'histoire, en fait. Et puis après, il y a des femmes plutôt en entreprise. Alors là, l'actualité fait qu'il y a une nouvelle PDG qui a été élue à la tête de Orange, donc Christel Heydemann. Chez Bell, du coup, là où je travaille, il y a Cécile Belliot, qui est une super inspiration. Elle est assez impressionnante, très impressionnante. On a la chance de pouvoir la côtoyer de temps en temps en réunion, on va dire, voilà, rarement, mais voilà, et c'est assez impressionnant. Donc voilà. Et puis j'avais, tu vois, typiquement, il y a certaines femmes sur lesquelles j'avais un peu fondé des espoirs, notamment une Kamala Harris, et je trouve malheureusement que sa voix porte pas autant que j'aurais espéré. Aux États-Unis, qui est quand même un pays puissant et qui est précurseur de plein de choses, en fait. Donc voilà.
J'en ai plusieurs qui sont in fine toutes les mêmes. Des collaboratrices que j'avais dans mon équipe, de très très grande valeur, et qui, vous savez, dans les classiques entretiens d'activité annuels, ne se projetaient pas dans des postes supérieurs au sens de du c'est pas pour moi. Une forme de plafond de verre, hein, c'est exactement ça, que moi, de façon très personnelle, je n'imaginais pas, parce que très naïf ou alors tout simplement protégé par mon statut masculin dans ce monde à l'époque, je n'imaginais pas. Et j'avais à plusieurs reprises, on a au moins 3 qui me reviennent en tête, des collaboratrices qui ne s'autorisaient pas à penser qu'elles pouvaient devenir, par exemple, directeur d'hypermarché. Parce qu'il y avait finalement peu d'exemples, et elles identifiaient ce métier comme étant assez masculin, mais en réalité, elles identifiaient ce métier comme nécessitant, et là encore, c'est des caricatures, mais comme nécessitant des qualités masculines pour pouvoir le réaliser. Et donc, elles ne se voyaient pas pouvant avoir les compétences pour être un bon directeur d'hypermarché. Dans la société, les choses ont beaucoup évolué, et tant mieux. Dans le monde de la distribution, ça a évolué également, sans doute parce qu'il y a eu de plus en plus d'excellents exemples qui ont inspiré d'autres femmes. Et puis j'espère aussi parce que un certain nombre de managers, hommes ou femmes, les ont aidés, tout simplement, les ont mis en avant, les ont poussés pour leur dire « mais vas-y, c'est possible ».
Je dirais l'homme qui m'inspirait tôt dans ma vie, c'est mon papa. mon papa, en fait, c'est comme ma maman. En fait, il joue un double rôle. Et je dirais que c'est la personne qui m'a plus inspirée et soutenue dans ma vie. Il m'a toujours soutenue. Et d'ailleurs, il me disait toujours qu'il avait grandi en Grèce pendant les années 50-60, où les femmes étaient très effacées. Une femme en Grèce à cette époque-là, elle sortait, oui, mais elle était surtout mère, elle était surtout femme, elle s'occupait aussi des grands-parents, elle cuisinait beaucoup, elle allait à l'église, mais son identité, elle ne pouvait pas l'exprimer. Mon papa m'a toujours dit que sa grand-mère, qui est née je ne sais pas quand, mais elle est morte en 65, n'avait jamais lu un livre. Et quand un jour elle a vu lire un livre et rigoler, elle a dit « Mais pourquoi tu ris en regardant un papier ?» Et lui, il était convaincu qu'il ne pouvait pas, je suis sa seule fille, et donc un enfant unique et une femme, il ne pouvait pas se permettre que sa fille ne soit pas une femme indépendante. Donc depuis très 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 jeune, il m'a donné cette vision, pas « tu es si bien qu'un homme ». Pour lui, ce n'était même pas une question. Ce qu'il me disait, ce n'était pas vis-à-vis un homme, c'était plutôt « sois qui tu veux être, j'ai tes soutiens sans condition et je veux que tu sois vraiment indépendante. Il faut que tu comptes sur toi-même et que sur toi-même et que tu ne regardes pas, tu n'aies pas besoin de regarder les autres. Ni une femme, ni un homme, ni la société. Vis sans avoir besoin d'une approbation des autres. Sois libre et sois toi-même. » Et je pense que clairement, c'est ce qui m'a fait le plus grandir et ça m'a donné énormément de force pour pouvoir faire tout ce que j'ai fait, vivre dans d'autres pays, parler d'autres langues, prendre beaucoup de risques. C'était que mon papa croyait en moi et il croyait que j'étais capable de faire tout ce qu'il pouvait faire un homme.
J'aimerais également partager l'environnement dans lequel j'ai grandi et ceux qui m'ont inspirée sont mes parents parce que pour l'époque, ils affichaient un modèle déjà très différent. Tout d'abord, mes parents m'ont eu tard, 40 ans, ce qui n'était pas forcément dans les usages de l'époque. Ma mère travaillait énormément et c'est mon père en fait qui avait pour gestion la maison et également un enfant et il était très féministe. En faisant mes recherches sur la Journée internationale des droits de la femme, j'ai pu constater un nombre important d'articles sur le leadership au féminin. Alors, dans les croyances communes, le leader est souvent associé à une figure masculine de par le poids de l'histoire, les idéologies et les stéréotypes. Et les femmes étant autorisées à travailler sans l'accord de leur mari seulement depuis 1965. Donc finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Pour autant, la réalité nous prouve de plus en plus que le plafond de verre est en train de se briser et que les femmes sont de plus en plus nombreuses à entreprendre et à se construire des carrières très valorisantes. Mais alors, j'ai voulu poser la question à mes invités, est-ce qu'il existe un leadership au féminin? Et si oui, qu'est-ce que le leadership au féminin? Et en quoi devrions-nous nous en inspirer ou pas? Et s'il n'existe pas, pourquoi? Et je vous laisse écouter sur ce sujet Alexia Chassagne ainsi que Nadia Malverzo sur la question.
Moi, j'aime pas tellement les caricatures, d'une façon générale. Donc, leadership au féminin, leadership au masculin, je sais pas tellement ce que ça signifie. En revanche, je pense qu'il y a quand même des qualités. Alors, je ne sais pas si elles sont innées ou acquises. Donc là, je veux pas qu'on rentre dans un débat... est-ce que l'acquisition est culturelle ou est-ce qu'elle est innée? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une chose qui nous différencie naturellement des hommes, qui est que nous, on porte la vie. Voilà. En tant que femme, on a cette immense chance de porter la vie. Et moi, je crois qu'au fond, ça nous donne quand même une forme de regard sur la vie en général, qui est un peu différente des hommes. Et encore une fois, voilà, pas de débat inné acquis, etc. Mais intrinsèquement, on est capable de porter la vie. Et même pour celles qui ne l'ont pas portée, je crois qu'il y a quand même inscrit dans notre animal primitif, dans notre cerveau, là, dans le statium qui est derrière, cette idée que, comme on porte la vie, d'une certaine façon, on doit la protéger aussi. Et du coup, je pense que quand même, ça nous donne une façon de diriger. Ça peut nous donner, quand on n'est pas influencé par trop par la société, par la culture, parce que finalement, la culture dans laquelle on est, c'est un leadership qui est très masculinisé. Mais quand on se laisse envahir d'une certaine façon par ce côté animal un peu primitif, mais qui pour moi est quand même très important, eh ben, j'ai le sentiment qu'on peut avoir une forme de leadership qui est un peu plus humain, un peu plus inclusif, un peu plus... un peu moins tourné vers les objectifs financiers, mais plus sur les objectifs humains, environnementaux, et d'avoir une vision un peu plus holistique que des hommes, en tout cas qui dans nos sociétés ont été élevés comme des winners. Parce que le problème, je crois que, et là pour le coup on revient à l'iné à l'acquis, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui potentiellement pourraient avoir envie de faire... d'avoir un leadership plus inclusif et plus humain et plus... Cependant, ce n'est pas les modèles qu'on leur donne. Les modèles qu'on leur donne, c'est si tu veux être un leader, il faut que tu sois un winner. Et je suis pas... d'ailleurs, je ne suis pas certaine que tous les hommes se retrouvent là-dedans.
Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le leadership au féminin, ça m'horripile. En fait, je pense qu'il n'y a pas de leadership au féminin ou au masculin, il y a du leadership tout court. Et le leadership, c'est vrai que c'est un peu la compétence, c'est un peu le Saint Graal. Il y a des tas de formations qui existent pour effectivement savoir comment exercer son leadership. Moi, je crois que le leadership, c'est avant tout se sentir suffisamment en confiance pour être soi-même. Ça permet en fait d'exister vis-à-vis des autres avec à la fois ses forces et ses faiblesses, de se montrer humain tout simplement, ni femme ni homme, mais juste humain. Et ça permet aux autres d'être eux-mêmes aussi, d'exister avec également leurs forces, leurs faiblesses. Le leadership, c'est savoir écouter ses équipes et les mettre justement suffisamment en disposition de s'exprimer, de dire les choses. Et d'exprimer toute leur aspérité, en fait. Et je déteste aussi toutes ces catégorisations qu'on fait sur les compétences qu'on doit avoir pour tel ou tel poste. Évidemment qu'il en faut un peu, mais comme je dis souvent, en fait, plus on rentre dans le moule et plus on a l'air d'une tarte. Et moi, je pense que ce qui fait la richesse d'une équipe et qui donne un formidable élan à un leader, c'est justement de pouvoir avoir de multiples talents et de savoir entretenir les aspérités de chaque membre de son équipe, de pas vouloir en faire des personnes similaires ou même des personnes identiques à soi, parce que là, c'est le pire de tout. Et quand on arrive à faire ça, je crois qu'on a la possibilité de concilier à la fois les besoins du business finalement, comment on va pouvoir mettre en disposition chaque personne de contribuer le plus efficacement possible. On donne du sens au collectif, mais on donne du sens à l'individu. Et on permet en fait de servir une vision qui devient une vision totalement partagée. On a tous envie d'accéder à cette vision commune, mais parce qu'on sait que chacun, on a notre identité propre qui va nous permettre d'y contribuer. Voilà. Et puis après, évidemment, le leadership, c'est aussi de la reconnaissance, de la mise en avant de ses équipes. Et puis de les accompagner aussi sur le chemin de leur évolution, parce que l'idée, c'est pas de les prendre juste tels qu'ils sont, mais c'est de les faire grandir, mais toujours dans le profond respect de qui ils sont et de ce à quoi ils aspirent. Et le rôle du leader, c'est vraiment de faire en sorte que chaque personne va pouvoir contribuer à sa manière et en étant en parfaite adéquation avec sa propre vision des choses, à la vision globale de l'entreprise.
J'ai un message qui est spécifiquement pour les femmes. Non pas parce que les hommes n'ont pas besoin d'être inspirés, d'être aspirés, d'être propulsés, mais je trouve malheureusement encore que la place des femmes dans le travail qualifié, dans le travail épanouissant, dans celui qui fait que quand on part travailler le matin, on y va parce qu'on est heureux d'y aller, je trouve que les femmes ont encore besoin d'entendre des messages qui les stimule et qui les motive. Il y a des femmes inspirantes dans la grande conso. Il y en a chez Carrefour, il y en a chez Auchan, il y en a chez Leclerc, il y en a côté industriel aussi. Quand je regarde l'état-major de Bell, c'est limite girl power. Et je trouve ça très bien. Parce que en montrant des femmes qui exercent des responsabilités, mais pas parce que ce sont des femmes, parce que d'abord ce sont des leaders charismatiques et il se trouve que ce sont des femmes. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut mettre les choses. Et donc si ça peut aider une partie de celles qui sont dans une forme d'auto-limitation, parce que malheureusement il y en a, eh bien il faut qu'elles regardent tous ces parcours-là. Il n'y a pas de carrière qui soit interdite à une femme. Par principe, ça n'existe pas. Une carrière, elle est pour un individu, et cet individu, son sexe, son genre, mais on s'en fout comme de l'an 40. Donc il y a, je pense, dans la place des femmes, à la fois la conséquence d'une place dans la société qui est encore insuffisante, mais il y a aussi peut-être chez certaines une forme d'auto-limitation, d'auto-censure. Et à celles-là, moi je veux leur dire, il y a désormais assez d'exemples dans la grande conso pour que vous vous raccrochiez à certaines d'entre elles en vous disant « ça pourrait être vous ». Et donc, c'est vraiment spécifiquement aux femmes que je veux donner ce message-là, parce que pour le coup, par expérience, les hommes, ils ont quand même moins besoin de ça. Ils y croient déjà tout seuls et assez haut, parfois même trop haut d'ailleurs.
Ne pas se laisser faire. C'est, en fait, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais ne pas se laisser faire, c'est fondamental. Et puis, croire en sa valeur, croire en son professionnalisme, on n'est pas là pour rien, on n'est pas sur le terrain pour rien. On n'a pas moins de valeur parce qu'on est jeune, on n'a pas moins de valeur parce qu'on est une femme. Aujourd'hui, si on est sur le terrain, c'est parce qu'on a envie de faire du terrain ou parce qu'on est appelé par cette belle vocation qui est l'agroalimentaire. Et je pense que c'est super important de se dire... Faut rester tenace, faut rester pugnace, faut dire on y va et on croit en ses idées, on croit en ses produits et on va aller tout défoncer en magasin. Il faut pas se laisser faire par les clients, il faut pas se dire j'ai moins de valeur parce qu'un client t'aura mal parlé. En fait, le terrain, c'est une très belle école de la vie. C'est un microcosme de tout type de personnalité, tout type de formation, de gens qui viennent de partout. Et c'est une très très belle école pour se dire mais en fait c'est un accélérateur puissance 10 000 de ton caractère, de ce que tu peux faire, de tes compétences, et c'est une expérience qui en vaut 100, je pense. C'est vraiment une expérience qui en vaut 100. En passant par le terrain, rien qu'en un an, tu sens ta personnalité qui change, tu sens tes objectifs qui changent. Il faut vraiment croire en ce qu'on est capable de faire, et puis bah voilà, il faut rien lâcher.
Pour moi, le message principal, c'est, et ça reste, d'écouter sa voix intérieure, d'essayer d'enlever tous les messages que tu peux recevoir qui brouillent en fait cette espèce de sentiment qu'on a. En fait, je crois qu'on sait tous au fond ce qu'on doit être et là où on va être bien. Moi, je pense que si vraiment on accepte de s'écouter en vérité, on sait très bien ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. La seule chose, c'est qu'on vit dans une société où il y a beaucoup d'injonctions. Donc, injonctions culturelles, injonctions d'éducation, injonctions sociétales. Ça peut être l'injonction des amis aussi, de ta famille, qui brouillent, en fait, et qui t'empêchent d'entendre ta petite voix intérieure, un peu comme si tu avais, tu vois, des sursons sur la télévision et du coup, tu n'entends pas bien ce qui se passe à la télévision. Et pour moi, le vrai conseil, c'est d'aller chercher cette petite voix intérieure, de l'écouter, et puis surtout de se dire que on a tous une place et que cette place a de la valeur, quelle que soit la place qu'on ait.
Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'inspirent au quotidien et qui ont participé à cet épisode. C'est quelque part pour moi la bonne occasion de leur faire un hommage. Niki Papoulopoulou, Alexia Chassagne, Olivier Dauvert, Clara Ménoret, Manon Guillot, Nadia Melverzo et Camille Winter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à me mettre une note sur Apple Podcast ou un commentaire sur l'épisode et me faire des retours tout simplement. Vous avez Instagram pour le faire via Sans Filtre Ajouté ou mon compte LinkedIn via Salomé Sherrington. Je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Je suis Salomé Sherrington et je suis ravie de vous avoir eu à l'écoute du podcast Sans Filtre Ajouté.